France Culture.
France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Au Japon, ceux qui clament leur innocence sont suspectés par les juges des libertés de vouloir dissimuler des preuves ou de risque de fuite. Et par conséquent, ils n'obtiennent pas de libération sous caution.
Les fausses accusations ne disparaîtront pas tant que sera maintenu ce système qui repose sur des justiciables pris en otage.
Qu'il y ait des condamnés à mort innocents est insupportable. Le simple fait qu'il y ait un risque d'erreur judiciaire devrait conduire à l'abolition de la peine de mort.
Le Japon séduit par ses paysages, sa culture et son histoire. 2024 a été une nouvelle année record pour le tourisme dans l'archipel. Le pays est notamment réputé pour sa sécurité. Les agences de voyage sont unanimes, on peut s'y rendre en toute insouciance. De fait, les chiffres de la délinquance, des crimes ou de la population carcérale ont de quoi faire pâlir de nombreux pays. Mais si l'ordre règne au Japon, doit-on pour autant louer l'efficacité dissuasive de son système judiciaire ? La justice japonaise a ses détracteurs. On se souvient des mésaventures du défenseur des baleines, Paul Watson, accusé de vandalisme et d'obstruction au commerce après une opération militante contre des navires baleiniers et qui a échappé de peu à l'extradition vers le Japon. En 2019, avant sa spectaculaire évasion, le PDG de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, avait passé plus de 100 jours en garde à vue. Soupçonné d'avoir omis de déclarer une partie de sa rémunération aux actionnaires de Nissan, il avait été arrêté à Tokyo, où il était assigné à résidence dans l'attente de son procès. Et ses avocats dénonçaient une procédure entachée d'irrégularités. En réalité, Carlos Ghosn n'a pas subi un traitement particulièrement sévère. Il a été traité comme le sont des dizaines de milliers de personnes ayant affaire aux policiers, procureurs et juges japonais chaque année. Mieux vaut ne pas avoir affaire à la justice pénale au Japon, car une fois dans son viseur, il est très difficile de s'en sortir indemne, que l'on soit coupable ou innocent. Dans ce pays où la peine capitale est toujours en vigueur, un homme a récemment été acquitté après avoir passé 46 ans dans le couloir de la mort. Il en a perdu la tête. Sa vie a été broyée. Quand la machine judiciaire japonaise déraille, c'est un reportage signé Karine Nishimura. Bonjour Karine.
Bonjour Aurélie, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondante à Tokyo et vous avez récemment publié un roman, L'affaire Midori, dont l'héroïne est fictive. Mais tout ce que vous racontez autour est vrai. Vous y parlez du système judiciaire japonais, de ses particularités et de ses failles. Et aujourd'hui, nous allons justement nous pencher avec vous sur les travers de ce système qui est d'ailleurs, Karine, assez opaque.
Oui, il est opaque. Alors, au Japon, en fait, il y a les apparences, celles d'une société où tout semble fonctionner, ce qui est le cas le plus souvent. Et puis, il y a un revers, un bout de réalité épouvantable qu'on découvre quand on ose scruter au-delà des apparences, dans l'obscurité. Alors, c'est une société sûre, vous l'avez dit, peu délinquance, un taux d'homicide parmi les plus faibles du monde, des prisons à moitié vides. En apparence, la justice japonaise est dissuasive, efficace et elle condamne avec justesse. Mais la réalité, c'est aussi un système effrayant, qui donne tant de pouvoir et prérogatives aux procureurs pour confondre les coupables, qu'il offre aussi la possibilité de confondre également et même légitimement des innocents. Alors, Badinter écrivait que pour mieux connaître une civilisation, il fallait se rendre dans ses palais de justice, ses tribunaux. Eh bien, c'est ce que j'ai fait, en m'intéressant, c'est vrai, surtout au processus qui génère de terribles erreurs judiciaires.
Et notre invité en ligne depuis Toulouse est Christian Galland, bonjour.
Bonjour Aurélie Kiefer, bonjour Karine Ishimura.
Vous êtes professeur en langue et civilisation japonaise à l'Université Toulouse Jean Jaurès et chercheur à l'IFRAE, l'Institut français de recherche sur l'Asie de l'Est, à l'INALCO. Votre spécialité à vous, c'est l'éducation. Et nous ferons avec vous justement des parallèles tout à l'heure entre système judiciaire et système éducatif. Mais tout de suite, nous écoutons ensemble le reportage de Karine Nishimura.
捜査関係者によりますと、 逮捕されたのは東京葛飾区のタクシー運転手呉志郷容疑者です。
C'est souvent par le même type d'image diffusée à la télévision ou publiée dans la presse, celle d'une arrestation, que le grand public japonais prend connaissance du début d'une procédure judiciaire à l'encontre d'un individu. Ces images montrent en général des policiers encadrant un suspect, un inconnu ou une célébrité qui tente de masquer son visage en vain. Les enquêteurs et procureurs n'hésitent en effet pas lors d'une interpellation à solliciter la présence des caméras de télévision et photographes en dépit de la présomption d'innocence. La suite, ce sont des interrogatoires à huis clos. Particularité, ces longues séances de plusieurs heures de questions à n'en plus finir se font sans avocat. Les suspects sont confrontés aux enquêteurs seuls. Ils peuvent consulter un défenseur en dehors des heures d'interrogatoire. Cette pression sur les suspects, le dirigeant de l'entreprise Okawara Kakoki, Masaaki Okawara, l'a subi pendant des mois. Lui et deux de ses employés ont été interpellés sur des soupçons d'exportation illégale de machines industrielles vers la Chine, des accusations qui se sont avérées totalement infondées.
J'ai été soudainement arrêté en mars 2020. Auparavant, pendant un an et demi, j'avais été convoqué plus de 40 fois par les policiers pour répondre à des questions dans le cadre d'investigations en cours. J'ai répondu à tout ce qu'on m'a demandé et j'ai signé des tas de procès-verbaux. Je n'avais jamais imaginé que je pourrais être arrêté. Mais pour me faire avouer des délits que je n'ai pas commis, les policiers ont décidé de m'enfermer et de me séparer de mes employés comme de ma famille. Après mon arrestation, sur les conseils de mon avocat, j'ai opté pour le droit au silence. Mais les enquêteurs n'ont cessé de me menacer et de me faire peur en me disant « Vous restez mutique parce que votre avocat vous l'a dit, mais c'est parfois préjudiciable d'écouter son avocat. » Et cela dans le but de me déstabiliser. Détenu, je m'inquiétais pour mon entreprise. J'étais vraiment traité en permanence comme un criminel, enfermé avec plusieurs autres détenus dans une pièce sans table. On nous posait par terre un bol en plastique de riz froid, en guise de repas. Il fallait faire ses besoins sur des WC dans un coin de la pièce. Quand on me déplaçait, j'avais les mains menottées, reliées à une corde servant de ceinture. On me donnait des ordres à très haute voix, comme à un esclave. « Ne regarde pas les gardiens, ne baisse pas la tête, regarde ici, ne regarde pas là. » Les interrogatoires se déroulaient les mains menottées derrière la chaise. J'ai subi cela plus de 40 fois. À court de force mentale et physique, il m'est arrivé de me dire, pour recouvrer la liberté, le mieux serait peut-être d'avouer. Mon avocat a demandé maintes fois au tribunal une libération sous caution, mais toutes ces requêtes ont été refusées au prétexte que je risquais de faire taire mes employés. Si j'ai tenu pendant les 11 mois de ma détention et je me suis battu tout le temps, c'est parce que j'avais la certitude de pouvoir prouver mon innocence.
En réalité, le dossier a été monté de toutes pièces par les enquêteurs pour accuser l'entreprise Okawara Kakoki. Mais les procureurs ont fini par lever l'inculpation avant que ne débute le procès. Un tel cafouillage révulse l'avocat Tsuyoshi Takada.
Je n'arrive toujours pas à croire que de tels faits puissent se produire dans le Japon contemporain. Les procureurs chargés de cette affaire ont inculpé des innocents en avalant les dires des policiers sans rien vérifier, en dépit de fortes contradictions. Les trois personnes de l'entreprise Okawara ont dû passer 11 mois enfermés à se battre dans un environnement des plus hostiles pour démontrer leur innocence face à une enquête menée en toute illégalité. Cela s'appelle la justice de l'otage. Au Japon, ceux qui clament leur innocence sont suspectés par les juges des libertés de vouloir dissimuler des preuves ou de risque de fuite. Et par conséquent, ils n'obtiennent pas de libération sous caution. Telle est la réalité dans le Japon actuel.
En effet, avant le procès, les policiers et procureurs ont la haute main sur le dossier. Ils peuvent conduire une enquête à leur guise. Il n'y a pas de juge d'instruction, seulement un magistrat pour décider de la durée de la garde à vue, qui peut aller jusqu'à 22 ou 23 jours. À l'issue de ce délai, le parquet doit décider s'il inculpe ou non le suspect pour le renvoyer devant un tribunal ou non. Et le juge des libertés se prononce sur son placement ou non en détention provisoire. Les policiers ont aussi la possibilité de maintenir cette personne en garde à vue en obtenant un nouveau mandat d'arrêt pour la réinterpeller sur un autre soupçon, ce même s'il s'agit d'accusations en lien direct avec la précédente. Autrement dit, ils peuvent saucissonner une suite de délits présumés en plusieurs phases et procéder à autant de placements en garde à vue successifs, d'où la terminologie souvent employée de « justice de l'otage ». Masaaki Okawara.
Quand on est l'objet d'interrogatoires par les policiers ou procureurs, il faudrait que ce soit en présence d'un avocat, que ce soit enregistré, filmé, et qu'on puisse au moins prendre des notes. Il est indispensable que les suspects qui clament leur innocence puissent le faire à armes égales face aux enquêteurs. Les fausses accusations ne disparaîtront pas tant que sera maintenu ce système qui repose sur des justiciables pris en otage.
Le droit au silence, en théorie, existe, mais comme le montrent ces extraits d'un interrogatoire, les policiers harcèlent et provoquent le suspect pour le forcer à craquer et à parler. C'est ce qu'a subi un certain Yamato Eguchi, avocat arrêté par erreur, pour avoir prétendument aidé un suspect à éviter une interpellation. Seo Cho est son défenseur.
Dès le début de ses interrogatoires, il a déclaré vouloir exercer son droit au silence. Mais ensuite, durant 22 jours, il a subi plus de 50 heures d'interrogatoire. C'est la réalité des interrogatoires au Japon. Et ce n'est pas du tout exceptionnel. Cela arrive tous les jours dans les commissariats du Japon. Durant ces 22 jours, plus de 50 heures, il n'a pas dit un mot. Mais ce n'est pas cela, le droit au silence. Il a pu rester silencieux, non pas parce que son droit au silence a été garanti, mais parce qu'il a eu l'incroyable force physique et mentale de tenir. En 2016, le code de procédure pénale a été réformé. Des caméras ont été introduites dans les commissariats et une partie des interrogatoires sont filmées et enregistrées. Il y a désormais un mouvement pour réclamer la présence d'un avocat aux côtés de son client lors des interrogatoires. Mais ce que disent les enregistrements des interrogatoires de Yamato Eguchi, c'est que cela ne suffirait pas à garantir le droit au silence. Malgré les caméras, mon client a été interrogé avec cette même insistance pendant des dizaines d'heures. Et si un avocat avait alors été présent, est-ce que cela aurait changé quelque chose? Je ne le pense pas. J'ai acquis la certitude que pour garantir le droit au silence, il faut donner la possibilité aux suspects de refuser et de stopper les interrogatoires.
Hélas, les autorités, elles, doutent d'autant moins de la légitimité du système qu'elles peuvent targuer du faible niveau de criminalité au Japon et d'un taux très élevé d'élucidation des crimes et délits. Il y a moins d'homicides au Japon qu'en France, bien que l'archipel compte le double d'habitants, et c'est pareil pour tous les types d'infractions à la loi. Les prisons japonaises ne sont qu'à moitié remplies pour un nombre de détenus deux fois inférieur à ce qu'il est en France. Alors la justice japonaise serait-elle parfaite? Bien sûr que non, car les manquements et erreurs sont hélas nombreux comme on l'a vu précédemment, au point que des procureurs sont parfois dégoûtés par certaines pratiques et quittent l'institution afin d'en dénoncer ensuite les méthodes. C'est le cas de Hiroshi Ichikawa, ex-procureur, qui ne mâche pas ses mots lors d'une réunion pour un comité de soutien de victimes d'erreurs judiciaires.
Dans le cas d'un suspect placé en garde à vue, les enquêteurs décident en général en moins de 10-12 jours s'il l'inculpe ou non, même si les éléments matériels dont il dispose sont parfois insuffisants. Et s'il décide d'inculper, ensuite la dizaine de jours restants leur sert à trouver ou même à fabriquer les preuves de culpabilité. Je dis bien sciemment fabriquer. De plus, ils retiennent parfois du suspect ce qu'il n'a pas dit et écartent ce qu'il a réellement dit. Il est donc mensonger d'affirmer que les preuves sont collectées de façon équitable et que le tout fait l'objet de vérifications strictes en interne.
Les procureurs sont dotés de pouvoirs très forts, celui d'inculper notamment, et font preuve d'un très grand orgueil. Ce sont eux qui décident presque du sort d'un suspect. Parmi les personnes placées en garde à vue, seulement un tiers sont en réalité renvoyés devant un tribunal pour être jugés. Si les procureurs estiment que la relaxe est possible, ils n'inculpent pas.
Par conséquent, le fait qu'ils inculpent signifie dans leur esprit que cette personne est forcément coupable et donc qu'elle doit être jugée coupable. Si un tribunal innocente un prévenu, il considère que le parquet doit dans tous les cas faire appel.
Cette façon de procéder incite les magistrats à faire totalement confiance aux enquêteurs et à considérer que les éléments apportés sont réellement des preuves de culpabilité. Une fois une personne inculpée par le parquet, il n'y a pas de non-lieu possible, c'est le tribunal qui tranche Yusai coupable ou Mosai innocent. Et c'est ainsi que dans les affaires pénales, plus de 99% des jugements de première instance se soldent par un verdict de culpabilité et une sentence. Les procès se déroulent en public, mais dans des salles toujours très petites, seulement quelques dizaines de sièges, sur tirage au sort quand le nombre de places est insuffisant pour accueillir tout le monde. Quelques journalistes des plus grands médias japonais sont admis dans la salle d'audience, mais seulement 4 ou 5 autres accréditations sont données à la discrétion du tribunal. Et ce, sans exception, même pour les procès extrêmement retentissants au niveau international, tels que celui du gourou de la secte Aum, condamné en février 2004 à la peine capitale, entre autres pour l'attentat de 1995 au gaz sarin, qui a fait une douzaine de morts et plus de 6000 blessés dans le métro de Tokyo. Il y a moins d'interactions et plus de lectures de documents pré-rédigés dans les tribunaux japonais qu'en France. Le public a ainsi plus de difficultés à se forger une opinion, d'autant que la tendance des magistrats japonais est de ne pas présenter au public les éléments du dossier susceptibles de choquer. Ils rechignent par exemple à montrer des photos de scènes de crime, même si les avocats le réclament. Depuis 2009, le Japon s'est lui aussi doté d'un système de jury populaire qu'expliquait en 2016 l'universitaire Tadashi Sakamaki lors d'un cours magistral ouvert à tous.
6 jurés populaires sont choisis pour prendre part au procès qui juge les crimes les plus graves, ceux dont les victimes ont été tuées. S'y ajoutent 3 magistrats professionnels, ce qui fait un total de 9 personnes pour juger. Et c'est cet ensemble de 9 personnes qui délibèrent pour donner la sentence. Et c'est cela que l'on appelle le système de tribunal avec jury populaire. Et ces tribunaux peuvent décider d'une sanction qui va jusqu'à la peine de mort, non pas à l'unanimité des 9 juges, mais à la majorité, même par une seule voix d'écart.
Il faut cependant qu'il y ait au moins un magistrat dans le total majoritaire. Avant 2009, même les crimes les plus graves tels que les homicides multiples étaient jugés par seulement 3 magistrats professionnels. Le verdict de culpabilité ou innocence et la sanction étaient aussi décidés à la majorité, si bien qu'un homme ou une femme pouvait être condamné à mort sur simple décision de 2 juges, même si le troisième s'y opposait. Désormais, ce sont donc 9 personnes et non plus 3 qui s'expriment. Depuis 2009, une cinquantaine de prévenus ont été condamnés à mort par ce type de cour mixte. Mais en cas d'appel, ce sont uniquement des magistrats professionnels qui reprennent le dossier dans la cour supérieure.
Dernièrement, on voit naître des critiques du système. Par exemple, dans le cas d'un prévenu condamné à mort par le jury populaire de première instance, mais dont la peine a ensuite été allégée en prison à perpétuité sur appel par des magistrats professionnels en deuxième instance. Ou bien concernant un prévenu qui a d'abord été jugé coupable, puis innocenté, ou l'inverse, si un jugement d'un jury populaire se trouve totalement modifié par des magistrats professionnels en appel, à quoi sert le jury populaire, écrivent des médias insuffisamment au fait du droit. Ce n'est pas parce que des jurés populaires ont pris part au jugement que celui-ci est forcément dénué d'erreur.
L'ultime instance d'appel au Japon s'appelle la Cour suprême, composée de 15 membres. Elle joue à la fois le rôle de la Cour de cassation et celui du Conseil constitutionnel. Une condamnation entérinée par la Cour suprême est définitive, ce qui revêt un sens tout particulier dans un pays qui applique toujours la peine de mort. Le seul recours après une décision de la Cour suprême est celui du procès en révision, une procédure complexe qui prend des décennies.
Au Japon, on accède au procès en révision par une porte qui ne s'ouvre pas, qu'on ne peut pas ouvrir. C'est une procédure infiniment difficile. Il y a cela plusieurs raisons.
Yumi Kamoshida est avocate. Elle explique les difficultés du recours en révision qui, en vertu de la loi actuelle, est presque mission impossible.
Il y a d'abord un problème de motivation des avocats qui pensent qu'on ne peut pas renverser une décision de culpabilité. Ensuite, les pièces du dossier ne sont pas accessibles à la défense. Il y a pourtant des pièces à conviction, dont certaines à décharge, qui n'ont été montrées à aucun procès et qui dorment dans des boîtes détenues par les enquêteurs, et ces pièces ne sortent pas de là. Et quand on parvient à les en faire sortir, cela prend des décennies. De plus, même quand une décision d'ouverture d'un procès en révision a été prise par un tribunal, eh bien, les procureurs peuvent faire appel. Cela prend des décennies.
C'est donc cela que vous voulez voir réformé.
Exactement. Le code pénal du Japon a été amendé au moment du changement de constitution après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On dit qu'il est alors devenu beaucoup plus respectueux des droits humains, mais en réalité, le travail de réforme n'a pas pu être mené à terme, faute de temps à l'époque, et tout ce qui touche au recours en révision est resté comme avant. Autrement dit, les règles qui régissent ce recours sont restées quasiment identiques à ce qu'elles étaient avant-guerre, du temps de l'empereur Taisho, il y a de cela plus de 100 ans, à une époque où l'on ne parlait pas au Japon de droits humains.
Ce sera ma dernière question, mais pensez-vous que quelque chose a changé, qu'une réforme devient possible?
Ce qui a changé depuis d'autres procès en révision, c'est l'opinion publique. Elle a compris, avec des affaires retentissantes, qu'il existe de terribles erreurs judiciaires. Les citoyens pensaient auparavant, sans vraiment de raison fondée, que les policiers, les procureurs, les tribunaux faisaient bien leur travail. Mais ils ont enfin compris que la réalité était bien différente. Et ce, pas seulement dans les cas de révision de procès, mais aussi parce que des chefs d'entreprise et autres personnes ont été soudain victimes d'erreurs judiciaires et l'ont fait savoir. Et sachant cela désormais, nos concitoyens veulent que la situation ne reste pas ainsi.
Hiroaki Murayama, ex-magistrat, a été confronté à la décision d'octroyer ou non un procès en révision à un condamné à mort. Lui aussi témoigne des failles du système.
Jusqu'à la décision d'octroyer à ce condamné à mort un procès en révision, les délais ont été beaucoup trop longs. Et surtout, c'était du temps perdu. Car pendant ces décennies, il n'y a pas vraiment eu d'acte de procédure en cours. Autrement dit, il n'y avait pas d'audition, de recherche, d'action concrète en cours. Et malgré cela, les années ont passé, sans qu'il ne se passe rien. C'est vraiment cela qui, lorsque j'ai pris le dossier en main, m'a le plus choqué.
Il semblerait qu'il y ait des magistrats très à l'écoute, des avocats requérant un procès en révision et d'autres qui ne prennent pas l'affaire au sérieux.
Hélas, oui, il y en a. Même si les avocats viennent voir le juge avec des éléments factuels, s'ils tombent sur un magistrat qui n'a pas envie de s'occuper sérieusement du dossier, eh bien, avec la législation actuelle, cela peut traîner ainsi, sans que rien ne se passe. Et même si les avocats portent plainte, eh bien, ce type d'attitude ne sera pas considéré comme illégal.
Les avocats non plus ne savent pas trop quoi faire.
Tout à fait. Par exemple, concernant la mise à disposition des pièces à conviction. Les avocats peuvent en demander la présentation, souhaiter que le tribunal les voie toutes. Mais si le tribunal n'agit pas, c'est vain.
Ce magistrat Murayama est à l'origine du plus récent et retentissant procès en révision du Japon, celui qui restera dans les annales comme un cas d'école tragique, celui d'Iwao Hakamata. Cet ex-boxeur a été arrêté en 1966, soupçonné d'un quadruple homicide et condamné à mort en 1968. Sa peine a été confirmée par la Cour suprême en 1980 et la première demande de révision de procès déposée l'année suivante en 1981. Mais la réponse des tribunaux, négative, n'est arrivée qu'en 2008, 27 ans après, en raison des multiples recours offerts à l'accusation.
Plus les magistrats décident d'agir, plus ils rencontrent la résistance des procureurs.
La deuxième requête en révision pour Iwao Hakamata, déposée en 2008, elle a abouti non seulement à une réponse positive du magistrat Murayama en mars 2014, mais aussi à une décision inattendue, la libération immédiate d'Iwao afin qu'il soit rejugé.
Et même au moment de prendre la décision d'octroyer une révision de procès, en réalité, rien n'est vraiment décidé dans la loi. Par exemple, c'est posé à moi le problème de savoir si, en même temps que je décidais la révision du procès du condamné à mort, je pouvais aussi dans le même temps suspendre sa détention. Il aurait été bien que cela soit précisé dans la loi, mais ça ne l'est pas. J'ai dû énormément réfléchir et j'ai tranché en le libérant. Mais j'ai vraiment compris que la législation était pleine de lacunes. Ma première mission était cependant de mettre fin le plus rapidement possible à cette situation, donc de prendre une décision au plus vite.
Hélas, en raison là encore des multiples recours dont disposaient les procureurs, il a fallu encore 9 années de procédure pour que s'ouvre un nouveau procès. Et enfin, 58 ans après le début de l'affaire, en septembre 2024, Iwao a été innocenté, acquitté. La cour a considéré que les preuves avaient été falsifiées. Hideyo Ogawa est le principal avocat d'Iwao.
Il y a en tout 3 preuves fabriquées selon le tribunal de révision, 3 dont une est la soustraction d'aveu par la force. Les autres sont des preuves matérielles falsifiées. Et cette fois, la Cour a explicitement dit que ces preuves avaient été fabriquées par les procureurs de Mèche avec les policiers. Et comme ces pièces à conviction sont désormais reconnues comme fausses, elles sont écartées de la liste des preuves et in fine, il ne restait rien pour démontrer la culpabilité d'Iwao. Il est donc déclaré innocent, c'est ça le raisonnement du jugement. Si on avait pu voir les pièces à conviction bien avant, on aurait démontré plutôt les incohérences. Cela me met dans une colère noire de constater que dans un cas où la sanction peut aller jusqu'à la peine de mort, les enquêteurs ont le droit de cacher de tels éléments. Dans cette affaire, durant les 27 ans de procédure entre la première demande de révision et la réponse du tribunal, les procureurs ont pu dissimuler les pièces à conviction. Et entre la décision de révision émise en 2014 et sa confirmation, il a encore fallu 9 ans durant lesquels on nous a fait tourner en rond. Il est clairement établi que tout cela est à l'origine de la durée de l'affaire Hakamata et de la souffrance qu'Iwao a endurée. Il est donc indispensable de réformer la loi sur ces points.
En tout, le calvaire d'Iwao Hakamata aura duré 58 ans, de 1966 à 2024. Il a désormais 89 ans. Réaction de sa sœur aînée Hideko Hakamata, 92 ans, au terme de cette longue quête, elle qui a toujours pourtant su que son frère n'avait rien fait de mal.
Ah, c'est fini, 58 ans de combat, ça se termine enfin. Je ne peux exprimer que de la joie. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus. C'était long, vraiment long, mais je ne me retourne pas sur ce qui a été dur. J'aimerais qu'Iwao puisse vivre encore au moins 10 ans. Je vais tout faire en ce sens. Ce serait juste bien qu'il ait désormais une vie tranquille.
À la sortie du tribunal de Shizuoka qui a innocenté Iwao Hakamata, je rencontre Keiko Sakurai. Je la connais. Elle aussi a souffert d'une justice qui se trompe. Son mari, Joji Sakurai, condamné à la prison à perpétuité, a passé 29 ans en cellule. Mais il a fini par être acquitté et libéré. Il est décédé depuis. Iwao aussi vient d'être acquitté, qu'en pensez-vous ?
Une affaire qui a duré si longtemps et a privé un homme de son existence ne doit pas se terminer simplement avec un verdict d'acquittement. Il faut des excuses. Sans excuses, cela signifie qu'il n'y a pas de repentir. Je veux donc d'abord que lui soit exprimé des excuses sincères.
Votre mari aussi a été victime d'une erreur judiciaire. Avez-vous reçu des excuses du parquet ? Non, pas du tout.
Aucune excuse, rien. À la place, les procureurs ont dit clairement que le seul problème était qu'ils n'avaient pas réussi à apporter des preuves irréfutables, mais qu'ils croyaient encore que mon mari était le meurtrier. Face à cela, et avec colère, nous avons lancé une procédure de demande d'indemnisation publique à l'encontre de l'État. Et même si on dit que c'est très difficile de gagner, eh bien mon mari a obtenu gain de cause avant de décéder. Et dans un sens, cela a ouvert la voie à une forme de réparation. Mais jusqu'à présent, on en est resté là dans plusieurs affaires, sans réformer la loi. Il faut que le cas Akamata serve de déclencheur pour que les choses changent grandement.
Iwao Hakamata est le cinquième condamné à mort au Japon, acquitté au terme d'un procès en révision depuis les années 1980. Mais combien d'autres ont-ils été déjà pendus alors qu'ils étaient innocents et combien d'autres encore croupissent-ils par erreur dans les prisons du Japon en craignant chaque matin la pendaison. Je retrouve Hideko Hakamata chez elle quelques semaines plus tard et l'interroge sur son opinion sur la peine de mort.
Avant que mon frère ne soit condamné à mort, je ne m'intéressais pas à la peine capitale, et il me semblait même normal que cela existe. Mais j'ai compris ensuite ce que cela signifiait, et j'ai changé d'avis. Elle doit être supprimée, et je militerai pour que son abolition devienne une évidence pour tout le monde.
Les conditions de détention des condamnés à mort au Japon sont souvent dénoncées par les instances internationales. Ils sont placés à l'isolement, n'ont aucun contact avec les autres détenus, leurs conversations au parloir sont écoutées par un gardien et leurs courriers lus par l'administration pénitentiaire. Des conditions carcérales qui tendent à les rendre fous. Après environ un demi-siècle passé dans les couloirs de la mort, Iwao s'est réfugié dans un monde imaginaire dont il est le tout-puissant qui a aboli la peine de mort. Son avocat, Hideo Ogawa.
J'ai rejoint l'équipe de défense d'Iwao en 1984, mais dès avant, hélas, lorsque je lui avais rendu visite pour la première fois en 1980, il racontait que des individus lui envoyaient des mauvaises ondes, que c'était douloureux et que ça ne s'arrêtait pas. Il commençait à être atteint de démence et il était difficile de converser normalement. Bien entendu, en tant qu'avocat, je tentais à chaque visite de lui poser des questions sur l'affaire pour laquelle il était condamné. Mais il réfutait tout dialogue à ce sujet. Et dans le pire des cas, il arrivait même qu'il quitte précipitamment le parloir.
Quand, en 2014,
il a été libéré pour être rejugé, il n'a pas pu recouvrer une vie normale. Les premiers mois, il ne sortait pas du tout et tournait littéralement en rond toute la journée dans l'appartement. Il avait en permanence ce genre d'attitude irrationnelle. Et même quand, par la suite, il a recommencé à sortir, Ce n'était pas pour aller se promener en ville, non, mais parce que dans le monde d'illusion qu'il s'était mentalement créé, il était le tout-puissant dont la mission consistait à patrouiller en ville pour protéger les habitants. Le cas Akamata a clairement démontré que la vie d'un condamné à mort par erreur est détruite, même s'il n'est pas exécuté. Il ne s'en remet pas. Il est donc pour moi évident, à l'aune de cette affaire, qu'il faut réellement repenser ce système de sentence capitale. Qu'il y ait des condamnés à mort innocents est insupportable. Ils craignent chaque jour d'être pendus pour un crime qu'ils n'ont pas commis. C'est effrayant. C'est parce qu'il a vécu cette peur en permanence qu'Iwao est aujourd'hui dans un tel état psychique. Le simple fait qu'il y ait un risque d'erreur judiciaire devrait conduire à l'abolition de la peine de mort.
Atroce pour les condamnés qui ne sont prévenus que le matin même de leur pendaison, insupportable pour leur famille qui n'apprend l'exécution qu'après, le système est aussi cruel pour ceux qui ont la charge d'appliquer la sentence. Car ce ne sont pas des bourreaux professionnels qui pendent les condamnés, mais les gardiens de prison qui ont veillé sur eux pendant des années. Le système est en outre pervers. Les gardiens doivent attacher les mains et les pieds du condamné, lui bander les yeux, lui passer la corde autour du cou, puis actionner le mécanisme de pendaison. Pour ce faire, plusieurs gardiens appuient chacun sur un bouton, mais un seul est actif et nul ne sait lequel a réellement déclenché la trappe sous les pieds du condamné qui chute brutalement dans le vide et est alors étranglé par la corde. Les gardiens vivront le reste de leur vie avec ce doute, et certains ne s'en remettront pas. Actuellement, 107 condamnés à mort, dont la sentence est définitive, attendent leur exécution dans les prisons du Japon. 50 d'entre eux ont lancé un recours en révision, lequel ne fait depuis quelques années même plus obstacle à l'exécution sur décision inexpliquée du gouvernement. Qui sera pendu, quel jour, dans quel ordre, il n'y a aucune transparence, comme en témoigne l'avocat Yasuyuki Tokuda, qui réclame au nom de la famille et à titre posthume la révision du procès de son client condamné à mort et déjà exécuté, Michitoshi Kuma.
En 1992, deux écolières dans la ville d'Izuka du département de Fukuoka ont été enlevées, violées et assassinées, puis leurs corps abandonnés dans la montagne. Deux ans plus tard, mon client, Kuma, a été interpellé comme suspect. À partir du moment où il a été arrêté jusqu'à son exécution, en passant par le jugement de confirmation de la sentence de mort, Kuma a toujours clamé son innocence. Il n'a fait aucun aveu. C'est donc une des rares erreurs judiciaires qui ne repose pas sur des aveux. Lors de nos multiples rencontres, il nous demandait, à nous, avocats, de lancer une requête en révision. Nous nous étions donc mis en quête de nouveaux éléments et avons fait tous les efforts en ce sens. Mais cela a été long, ça a pris 2 ans. Comme le temps passait, je craignais qu'il ne soit exécuté. Et nous avons dit à Kuma, il faut que l'on fasse vite pour déposer cette requête afin d'éviter l'exécution. Mais Kuma a voulu nous rassurer sur ce point, car il avait établi la liste des condamnés dont la peine avait été confirmée avant lui et me disait, il y a plein d'autres à exécuter avant moi. Pourtant, un mois après, il a été pendu.
Aujourd'hui encore, l'avocat Tokuda continue de lutter contre les procureurs qui refusent de fournir aux avocats la liste de l'ensemble des pièces à conviction au risque de laisser supposer que certaines d'entre elles instillent le doute sur la culpabilité du condamné. La décision de mener un condamné à mort à l'échafaud est prise de façon totalement discrétionnaire et obscure. C'est le ou la ministre de la Justice qui signe l'ordre d'exécution d'un condamné à mort. L'annonce se limite après coup à une conférence de presse du ministre de la Justice, conférence dont le contenu est en général très encadré et de même nature. Voici de longs extraits de celle donnée par le ministre de la Justice Yoshihisa Furukawa le 26 juillet 2022, date de la plus récente exécution au Japon, celle de Tomohiro Kato, condamné pour l'attaque mortelle conduite en 2008 au hasard dans la foule dans le quartier d'Akihabara, à Tokyo.
Ce matin, nous avons exécuté le condamné à mort, Tomohiro Kato. Référez-vous aux documents distribués pour le résumé des délits pour lesquels il a été sanctionné. Le meurtrier a agi avec préméditation et une réelle volonté de tuer. Il a perpétré une tuerie au hasard menée selon une méthode extrêmement cruelle qui a eu des conséquences tragiques, 7 morts et une dizaine de blessés. Cela a créé un énorme choc dans la société. Au terme d'un procès conduit conformément à la législation, a été prononcé un verdict de peine de mort, confirmé ensuite. Par conséquent, en tant que ministre de la Justice et en ayant étudié ce cas avec une prudence extrême, j'ai ordonné son exécution. Je ne peux donner plus de détails sur les éléments qui entourent la décision de cette exécution.
Malgré les dires du ministre qui assure prendre de telles décisions avec gravité en étudiant bien chaque cas, le gouvernement japonais a déjà, à plusieurs reprises, décidé d'exécuter des condamnés à mort dont une requête en révision était en cours. Il reste en outre des années dans les couloirs de la mort, confirme le ministre.
Durant les 10 années, entre 2012 et 2021, les condamnés à mort exécutés avaient en moyenne passé 7 ans et 9 mois en prison entre la confirmation de leur sentence capitale par la Cour suprême et leur exécution.
La durée s'est même allongée depuis à 9 années d'attente entre la confirmation de la sentence et l'exécution. Mais ceci n'est qu'une moyenne. Il y a actuellement dans le couloir de la mort au Japon un homme de 74 ans, Nobuo Oda, dont la condamnation à mort a été prononcée en 1968 et qui continue depuis plus d'un demi-siècle de clamer son innocence. L'administration refuse de donner la moindre information sur l'état mental de ces hommes et ces femmes.
Nous devons faire preuve d'une grande prudence sur les informations rendues publiques sur les conditions de vie quotidienne de ces condamnés à mort, compte tenu de la nécessité de ne pas affecter leur stabilité psychologique.
Un argumentaire surprenant qui laisse pantois les défenseurs des droits humains. Malgré la dénonciation de la cruauté de la peine capitale au Japon et ses erreurs judiciaires, le gouvernement refuse d'engager le débat sur l'abolition, pourtant encore exigé récemment par un groupe de travail réunissant des juristes et personnalités de divers domaines qui ont remis un copieux rapport en ce sens à l'exécutif. Le lendemain, clair et net, fin de non-recevoir de la part du porte-parole du gouvernement, Yoshimasa Hayashi.
À ce stade, nous n'envisageons pas la mise en place d'une structure de débat sur l'abolition de la peine de mort.
Radio France, Nishimura desu. Nihonno shikei seido nitsuite o kiki shimasu.
Je l'ai interrogé plusieurs fois sur le maintien de la peine de mort, mais à chaque fois, j'obtiens exactement la même réponse.
Une large partie des citoyens japonais estime que la peine de mort est inévitable pour les personnes reconnues coupables de crimes particulièrement violent et cruel. Par conséquent, nous pensons que l'abolition de la peine de mort ne serait pas opportune.
Le gouvernement utilise en permanence depuis des décennies les résultats de son sondage quinquennal sur la peine capitale. Selon cette enquête conduite auprès de moins de 2000 personnes, plus de 80% des Japonais jugent la peine de mort inévitable dans certains cas, une proportion qui varie peu et qui a même un peu augmenté à 83% dans la plus récente mouture de fin 2024. D'autres enquêtes aux réponses plus ouvertes nuancent ce plébiscite apparent, mais les autorités les ignorent et refusent l'ouverture d'un débat au Parlement. Le prochain sondage gouvernemental n'aura lieu qu'en 2029 et en attendant, les condamnations à mort vont continuer dans une quasi-indifférence.
Quand la machine judiciaire japonaise déraille, c'était un reportage de Karine Nishimura avec Annie Brois à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Il y a un énorme écart culturel entre la France et le Japon, on le perçoit à travers ce reportage. Et c'est pour cette raison que nous avons eu envie d'échanger avec vous, Christian Galland. Vous n'êtes pas spécialiste de la justice, mais de l'éducation, ce qui va nous permettre d'élargir notre réflexion sur la façon dont fonctionne la société japonaise. Le tableau que vient de nous brosser Karine est sombre. Pour le contrebalancer, on peut rappeler que le Japon a l'un des taux de criminalité les plus bas au monde. Alors on pourrait l'expliquer par l'effet dissuasif de ce système judiciaire, avec notamment la peur de la peine de mort. Mais n'y a-t-il pas d'autres explications, comme la façon dont sont éduqués les jeunes japonais ?
Oui, tout à fait. Je pense que le système éducatif a une grande part dans ce faible taux et dans la sécurité plus généralement qui règne dans le pays. Et cela est dû, je pense, à la pression sociale qui, dès l'enfance, façonne le comportement des enfants, puis des jeunes adultes japonais. L'école inculque une discipline stricte et un sens aigu des responsabilités, mais elle le fait aussi souvent au prix d'une pression psychologique intense. En fait, plus qu'une discipline stricte, les élèves sont conditionnés pour se conformer aux attentes du groupe et aux attentes de la société.
Oui. Et on valorise le groupe au détriment de l'individu.
Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'on valorise le groupe et plus encore, on valorise le fait de ne pas déranger le groupe. Par exemple, dans l'école, des victimes de harcèlement à l'école ont longtemps été considérées comme les personnes qui, en réalité, perturbaient le système. Et c'était elles qu'on déplaçait d'une école à une autre, en laissant plus ou moins les auteurs de harcèlement tranquilles. Disons, voilà, il faut pas jouer un rôle de perturbateur. Et je pense que c'est transmis, souvent on a une mauvaise idée parce que c'est pas forcément transmis par exemple par des leçons de morale inculquées, apprises par cœur, etc. C'est pas du tout ça, c'est plutôt tous les processus qui sont mis en place dans le système scolaire et la part du temps inconsciemment même par les acteurs, par les professeurs notamment, qui en fait développe chez les enfants japonais un sens de l'autodiscipline qui peut confiner parfois à la transparence, hein, c'est-à-dire le respect des normes sociales oblige l'individu à se mettre en retrait, s'invisibiliser et donc parfois jouer contre son propre intérêt.
Il ne faut pas sortir du rang. De fait, il y a peu de délinquance juvénile.
Oui, tout à fait. Elle est très très faible. En revanche, souvent, quand il y en a, elle peut être très violente. Il y a des cas connus qui ont défrayé la chronique dans les années 90-2000 et qui d'ailleurs ont été utilisés par le gouvernement pour renforcer encore plus le contrôle sur les enfants au travers de l'école, au travers de renforcer les lois, la loi sur la jeunesse, etc.
Karine, je reviens vers vous. Au Japon, effectivement, on veut à tout prix préserver la paix sociale et éviter autant que possible le contentieux, ce qui fait qu'il n'est d'ailleurs pas très bien vu de recourir à la justice.
Alors ça dépend en fait des crimes et délits, parce que par exemple, sur les agressions sexuelles dans la sphère privée, eh bien les plaintes sont prises avec réticence, le taux de signalement estimé à moins de 5% des faits subis, donc la réalité effectivement ne se reflète pas dans les statistiques. Mais si on prend d'autres types de crimes et délits, leur faible occurrence, elle n'est pas due à un sous-signalement. Par exemple, les vols de voitures, ils sont tous signalés, malgré tout, il y en a 6 000 au Japon, 10 fois moins qu'en France. Donc ça dépend. Et puis il y a même des cas où la plainte, elle est encouragée par les policiers. Par exemple, une supérette va porter plainte immédiatement si un pauvre bougre vole un bout de pain à l'étalage. Les policiers vont arrêter le gars, il va subir une garde à vue, un placement en détention jusqu'à un procès assorti d'une peine parce qu'il aura perturbé le système, justement. Il aura perturbé cette quiétude. Donc, en fait, il y a des signalements qui sont faits par les gens perturbés, en fait, et ceux-là, ils vont porter plainte. Et si c'est dans la sphère privée, c'est plus délicat, en fait. Et c'est là que les agressions sexuelles se logent le plus souvent.
Oui, et dans ces cas, le parcours des victimes est loin d'être simple.
C'est même un parcours du combattant qu'abandonne beaucoup de personnes en chemin.
Alors, le droit japonais a commencé à se réformer après la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu la reddition sans condition du Japon impérial et l'occupation du pays par les États-Unis jusqu'en 1952. Il y a donc eu des réformes sous l'influence américaine. Mais c'était mentionné dans le reportage, ces réformes ont été interrompues après le départ des Américains. Est-ce qu'on peut en dire autant du système éducatif, Christian Galland ?
Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs un des grands problèmes, je pense, de la démocratie au Japon dans toutes ses dimensions. C'est que le processus d'établissement de cette démocratie n'est dans beaucoup de domaines pas allé jusqu'au bout. Et à la limite, enfin, en écoutant le reportage, on peut penser même qu'il est allé beaucoup moins loin dans le cadre de la justice, de la police, que dans le cadre de l'éducation. Dans le cadre de l'éducation, les Américains ont vraiment... L'occupant américain a vraiment essayé de mettre en place un nouveau système. Simplement, la guerre froide avec la guerre de Corée, la prise du pouvoir par Mao en Chine ont provoqué un changement de cap complet dans les politiques d'occupation. Et l'objectif pour les Américains n'a plus été de démocratiser le pays, mais de le protéger d'un basculement dans le camp communiste ou socialiste. Donc à partir de là, toutes les réformes ont été interrompues. Et par exemple, avec l'arrivée au pouvoir à partir du milieu des années 50 de ce qui va devenir le Parti libéral démocrate, on a en matière d'éducation un retour en arrière sur beaucoup de dispositifs que les Américains avaient mis en place pour protéger un fonctionnement démocratique du système éducatif sous le contrôle de la population. Et à partir de là, le ministère, le gouvernement a repris le contrôle entièrement du système éducatif et il l'a utilisé pour ses propres objectifs qui n'étaient bien sûr plus ceux de l'avant-guerre, mais qui étaient quand même ceux... L'idée était de mettre le système éducatif au service de l'économie et de l'industrie. Et donc, des processus de démocratisation qui avaient été entrepris ont été abandonnés. Et pour la justice, je pense que c'est encore plus prégnant, enfin important ce système, puisque apparemment, l'absence de réforme du code pénal ou ce genre de réforme ont maintenu des règles qui avaient cours avant-guerre. Et or, les hommes qui sont revenus au pouvoir à partir des années 50, c'était à quelques exceptions près, ceux qui faisaient également partie des élites juste avant la guerre et pendant la guerre. Donc la machine japonaise, l'État japonais n'a plus été au service de l'armée ou de l'empereur, mais elle a été mise au service entièrement de l'économie, avec des hommes aux manettes qui étaient empreints d'une idéologie quand même assez forte de contrôle de la population, d'un point de vue assez autoritaire sur la politique et le comportement des gens. Quoi.
Et alors, il est très difficile pour la justice de se déjuger. Bon, je crois qu'on peut le dire dans tous les pays. Mais au Japon, que l'institution reconnaisse ses torts, ça n'est vraiment pas du tout dans la culture.
Oui. Par exemple, moi, je me suis intéressé un petit peu aux questions de juridiques dans les jugements qui ont concerné les enseignants qui avaient été sanctionnés, par exemple, lorsqu'ils avaient refusé de se lever devant le drapeau ou d'écouter, de chanter l'hymne national. Et très souvent, c'est intéressant parce que dans ces jugements, les tribunaux leur ont donné en partie raison au nom des droits qui figurent dans la Constitution, comme la liberté d'opinion, la liberté de conscience, la liberté académique. Mais au final, ils leur ont donné tort également parce que dans cette même Constitution, vous avez deux articles, le 12 et le 13, je crois, qui assujettissent l'exercice de ces droits à la nécessité de ne pas contrevenir au bien-être public. Et donc c'est très important parce que on dit oui, vous avez raison. Enfin, vous avez le droit de faire ça, mais en même temps, en faisant ça, vous portez du tort au bien-être public. Et dans ce cas, finalement, même si vous avez raison, vous êtes en tort. En ce sens-là, on peut considérer, par exemple, que le fait de ne pas reconnaître que les juges se trompent ou que la justice fonctionne mal ou que la police fait des erreurs, ça peut être considéré comme le fait que ça paraît plus grave de reconnaître cela par rapport au bien-être public, parce que ça peut perturber la société, de savoir qu'il y a une justice qui fonctionnerait pas bien ou une police qui fait des erreurs, que le fait de masquer cela. C'est-à-dire que il vaut mieux ne pas perturber le public, la population, en masquant, en ne revenant pas sur ces erreurs, que de reconnaître des erreurs qui pourraient porter du tort et donc fragiliser l'institution. C'est pour ça que, par exemple, on évoquait les cas de... Il y a actuellement le film de Ito Shiori sur Black Box qui sort sur les écrans. On comprend bien dans ce film que le fait de dénoncer le viol qu'elle a subi, en fait, est considéré comme plus perturbant par la société, pour les autorités judiciaires et politiques, que le fait qu'elle ait été victime elle-même de ce viol. Et donc, du coup, la machine judiciaire, la machine policière, tend à essayer d'étouffer, d'écraser ce genre de situation.
On comprend que la contestation soit un problème pour le pouvoir, mais du côté de l'opinion publique, Karine a quand même été frappée par la relative indifférence des Japonais face au fonctionnement de leur justice. Ils ont l'air de lui faire plutôt confiance a priori. Comment est-ce que vous l'expliquez, ça ?
Alors, là aussi, on retombe sur les questions d'éducation. C'est-à-dire que, sur beaucoup d'aspects, la société japonaise fonctionne plutôt bien. Et le rôle de l'école, c'est aussi de convaincre que cette société fonctionne très bien et que être un bon japonais, c'est faire en sorte contribuer au bon fonctionnement de cette société et éviter tout ce qui pourrait la perturber d'une manière ou d'une autre. Donc l'attitude première des Japonais, hein, c'est plutôt de rester en retrait tant qu'un problème ne les touche pas directement ou ne touche pas un proche. En revanche, on constate que, par exemple, quand des Japonais se lancent dans des combats pour protéger un combat écologique, un combat professionnel, là, par contre, ils peuvent aller jusqu'au bout individuellement. C'est-à-dire, ils peuvent faire protester pendant des années et des années. Hein. On le voit dans le cas, par exemple, du boxeur que vous évoquiez au début, Hakamata. Ses soutiens se sont battus pendant des décennies. Mais ça reste dans la sphère proche, dans la sphère de ceux qui sont directement touchés par ce cas. Et il n'y a pas d'extension d'un problème social. C'est-à-dire qu'on verra difficilement, par exemple, au Japon, comme on peut le voir chez nous, une bavure policière, par contre, dans un quartier qui entraînerait des révoltes ou des émeutes partout dans le pays. C'est pas du tout dans la manière de faire des Japonais. Et ça aussi, c'est conditionné par l'éducation et la manière dont, justement, ce contrôle un petit peu discret, caché, s'introduit progressivement dans les esprits.
Merci Christian Galland. Dernière question, Karine. La peine de mort est toujours en vigueur, mais la dernière exécution remonte au 26 juillet 2022. Est-ce qu'on peut penser que l'histoire d'Iwao Akatama a eu un impact, que le ministre de la Justice pourrait hésiter davantage avant d'ordonner l'exécution d'un condamné ?
Oui, ça a probablement joué en fait dans le fait qu'ils aient différé des exécutions, hein, parce qu'effectivement, ben ça a occupé quand même pendant presque 2 ans la une des médias, cette affaire Hakamata, et donc évoquer la peine de mort comme ça quotidiennement et puis exécuter en même temps aurait relancé le débat. Mais il n'y a pas du côté japonais volonté de faire une sorte de moratoire sur les exécutions, ça se saurait. Il est très clair que le gouvernement japonais veut à tout prix continuer de convaincre la population que la peine de mort a une valeur dissuasive, alors même qu'on voit des phénomènes inverses dans plusieurs faits divers récents où des hommes ont tué plus d'une personne et quand ils ont expliqué pourquoi ils avaient tué non pas une mais 2 ou 3 personnes, eh bien c'était pour être certain d'être condamné à mort. Donc cette peine de mort finalement de dissuasive, elle devient incitative. Et même ça, même ce type de réaction de condamner devant les tribunaux ne remet pas en cause dans l'esprit du gouvernement l'idée que cette peine de mort, en fait, ben, c'est moyenâgeux, c'est dépassé et qu'il faut en finir avec ça. Il n'y aura pas de débat.
Merci Karine Nishimura. Vous signez le grand reportage de cette semaine, Quand la machine judiciaire japonaise déraille. Réalisation Annie Bro, à la technique Noé Chaban, au web Caroline Beneteau. Merci à Patricia Miura et Véronique Le Faller pour la documentation. Pour réécouter ou partager cette émission de la rédaction, rendez-vous sur l'appli Radio France ou sur franceculture.fr.